VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Niger, l'annonce définitive des résultats de la présidentielle du 21 février est imminente. Le chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou, qui brigue un deuxième quinquennat, est toujours largement en tête du scrutin. Le point avec notre envoyé spécial à Niamey, Nicolas Pinault.
Oui, la Commission électorale nationale indépendante s'apprête à mettre fin au suspense. Nous sommes 5 jours après le scrutin de dimanche. Et c'est tout à l'heure, 17h, heure locale, 16h, temps universel, que seront enfin dévoilés les résultats globaux provisoires. Alors vous le savez qu'ils sont d'ores et déjà rejetés par l'opposition réunie au sein de la COPA, la Coalition pour l'Alternance. Selon les derniers résultats de cette CENI, publiés très tôt ce matin, le président Mahamadou Issoufou est toujours largement en tête avec près de 48% des suffrages. Deux interrogations concernant cette publication des résultats. Le président Mahamadou Issoufou va-t-il être déclaré vainqueur dès le premier tour? Et l'autre grande interrogation, l'opposition, quelle sera son attitude face à des résultats qu'elle a d'ores et déjà décriés? Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Au Mali, 2 militaires tchadiens du contingent onusien de la MINUSMA à Kidal sont assassinés par un de leurs camarades soldats. Un désaccord avec la hiérarchie, des conditions de vie difficiles auraient motivé l'incident meurtrier. Eric Manirakiza.
Un chef d'unité et un médecin militaire sont les 2 victimes du soldat mutin. Selon une source à la MINUSMA, la tension était vive hier à Tessalit, au nord de Kidal. Les rapports avec la hiérarchie au sein du contingent tchadien sont à l'origine du mécontentement du mutin. Ce n'est pas non plus un cas isolé, puisque le casque bleu avait reçu le soutien d'une dizaine de ses camarades pour mener une petite mutinerie contre la hiérarchie depuis mercredi soir. Les mêmes militaires se plaignent également des conditions de vie et de travail dans le nord du Mali, mécontentement manifesté il y a quelques semaines. La source anonyme citée par l'AFP précise que le soldat mutin a été maîtrisé et sera transféré aujourd'hui à Bamako, mais sans détail sur son renvoi éventuel au Tchad. Une dizaine d'autres soldats ont été arrêtés pour indiscipline. Le contingent tchadien est le 3e en nombre de la MINUSMA. En septembre 2013 et en novembre 2014, des soldats tchadiens mécontents et se réclamant des arriérés de soldes avaient abandonné leur position en signe de protestation.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, au moins 6 personnes blessées, dont une très grièvement par l'explosion d'une grenade aujourd'hui dans le quartier populaire de Buyenzi, dans le centre de la capitale Bujumbura, au 2e jour de la visite d'une délégation de chefs d'État africains dans le pays. Les 5 chefs d'État africains en visite à Bujumbura pour essayer de désamorcer la crise provoquée dans le pays par la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat l'année dernière, s'entretiennent aujourd'hui avec le chef de l'État burundais. Ils ont déjà eu des consultations avec la classe politique, la société civile et d'autres acteurs de la crise hier. Pour un aperçu de la mission de médiation de l'Union africaine, rejoignons notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
L'hôtel Best Outlook, situé sur les hauteurs surplombant la capitale, a pendant plusieurs heures attiré l'attention de la classe politique burundaise, de la mouvance comme de l'opposition. Le chef d'État africain avait choisi cet endroit, situé près du mausolée de l'unité nationale, pour se mettre au fait des divergences des politiciens et des membres de la société civile pour trouver une issue à la crise qui vient de faire plus de 400 personnes tuées en moins de 10 mois. Pour le chef de délégation de l'Union africaine, le président Jacob Zuma, l'objet de cette visite est de faire en soi ensemble tous les protagonistes burundais.
Firmly believe that challenges that Burundi faces can only be resolved through participation by all parties in inclusive dialogue whose result should be peace, security and stability for the people of Burundi.
Le président sud-africain affirme à l'ouverture des consultations que les problèmes que le Burundi fait face actuellement ne peuvent trouver de remède que par le biais de la participation de tous les acteurs politiques burundais dans un dialogue inclusif et dont les résultats seront la paix, la sécurité et la stabilité du peuple burundais. Léon Songyendakumana, président du parti Front pour la démocratie au Burundi, revient sur les grandes questions qui ont été discutées avec la facilitation africaine.
Les questions en rapport avec ces cas de disparition, les questions en rapport avec les réfugiés, les exils, les questions en rapport avec le fonctionnement des partis politiques, le fonctionnement des médias, le fonctionnement de la société civile, de les questions en rapport avec la légalité, l'accord d'Arusha et la Constitution, son interprétation, leur interprétation, et enfin les questions liées aux élections, sans oublier évidemment les questions liées à la pauvreté. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut rapidement saisir la médiation pour que le dialogue inclusif commence très rapidement.
Après presque 2 heures de consultation, Léon Sengyendakoumana se dit satisfait pour un dialogue inclusif tous les acteurs politiques.
Si on considère les conclusions des discussions qui ont eu lieu avec le secrétaire général des Nations Unies, si on considère les conclusions qui viennent d'avoir lieu avec les 5 chefs d'État, moi je pense que le résultat, c'est d'essayer de renforcer la médiation. Il y a urgence, le cadre permettra de dégager les questions prioritaires à résoudre et nous sommes satisfaits.
Les acteurs politiques encore à Bujumbura ont indiqué que la question de l'envoi de la force africaine n'a pas été débattue par la délégation de haut niveau de l'Union africaine. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
L'Éthiopie accuse l'Érythrée d'être derrière les manifestations antigouvernementales en novembre 2015 dans la région de l'Oromia. Le gouvernement d'Addis Abeba avait violemment réprimé ces manifestations, faisant plus de 140 morts et des milliers d'arrestations, selon Human Rights Watch. Le point avec Eddie Sango.
Addis Abeba soutient détenir des preuves selon lesquelles les instigateurs des violences dans certaines localités de l'Arcy occidentale venaient d'Asmara, capitale érythréenne. Les porte-parole du gouvernement éthiopien, Getachew Reda, a accusé l'Érythrée de travailler de concert avec 2 mouvements éthiopiens, les Fonds de Libération Oromo, OLF, un groupe rebelle, et Genbot 7, un groupe d'opposition exilé aux États-Unis et qualifié de terroristes par Addis Abeba. Ils veulent infiltrer des fauteurs de troubles en Éthiopie, a dit les porte-parole du gouvernement éthiopien. Selon un bilan des Human Rights Watch, plus de 140 personnes ont été tuées et des milliers d'autres arrêtées lors de la répression brutale et massive des manifestations par les autorités éthiopiennes en novembre dernier dans l'Oromia. Des manifestants protestaient contre un plan gouvernemental d'urbanisme visant l'expansion d'Addis Abeba, capitale éthiopienne. Ces masterplans, finalement abandonnés le 12 janvier, suscitaient des craintes d'expropriation des fermiers Oromo, les plus importants groupes ethniques du pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Syrie, l'aviation russe a bombardé intensément plusieurs bastions rebelles aujourd'hui en Syrie, à quelques heures de l'entrée en vigueur attendue d'un cessez-le-feu. Et aussi après une mise en garde du président américain Barack Obama sur la nécessité de respecter la trêve pour mettre fin au chaos dans le pays. Cette trêve entre le régime du président Bachar Assad et les rebelles, la première du genre en près de 5 ans de guerre, doit être appliquée à partir de samedi minuit heure locale. Mais les grandes puissances, les pays régionaux et les belligérants restent très sceptiques. En tout cas, près de 100 factions rebelles ont accepté de respecter l'accord russo-américain de cesser le feu, a annoncé aujourd'hui le Haut Comité des négociations HCN qui rassemble des groupes clés de l'opposition et de la rébellion. Les factions de l'armée syrienne libre et de l'opposition armée sont d'accord pour respecter la trêve qui durera 2 semaines, a indiqué le HCN dans un communiqué parvenu à l'AFP. Le HCN parle de 97 factions rebelles. L'organisation précise aussi qu'une commission militaire dirigée par son coordonnateur général Riyad Hijab a été formée pour le suivi et la coordination de l'application de la trêve. Côté russe, le président Vladimir Poutine a estimé aujourd'hui qu'un règlement pacifique du conflit syrien serait difficile, mais qu'il n'existait pas d'autre solution. Quelques heures avant l'entrée en vigueur de la trêve, le président russe a également martelé sa résolution de continuer la lutte implacable contre les djihadistes de l'État islamique et du front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, 2 organisations exclues du cessez-le-feu. Élections en Iran, les Iraniens ont commencé à voter aujourd'hui pour un double scrutin vital à la poursuite de la politique d'ouverture du président modéré Hassan Rouhani, qui espère renforcer son pouvoir face aux conservateurs. Et enfin, du football pour terminer, le congrès réunissant les 209 fédérations affiliées à la FIFA, qui doit élire le successeur de Joseph Blatter, président de 1998, s'est ouvert aujourd'hui à Zurich alors que l'instant traverse sa crise la plus profonde sur fond de corruption à grande échelle. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.